Oui, je ne suis pas une réincarnation de Cyriane qui était annoncée par erreur, ni de Brigitte qui devait effectivement nous partager la parole ce matin et qui est empêchée pour les raisons que nous avons entendues. D'ailleurs, prédication n'est pas la seule improvisation entre guillemets ce matin. Tout est un peu improvisé. Donc, merci à tous ceux qui ont improvisé, pour la musique, les chants, Jean-Marc aussi, pied levé. Merci à ceux qui sont là tous les dimanches aussi, comme Martin, pour la technique, et d'autres. On risque toujours d'en oublier, donc toutes mes excuses si j'en oublie. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est quand on voit la richesse qui est donnée à l'Église de tous les dons, et que quand je vois notamment le groupe de musique de tout âge ce matin, ça me fait très plaisir, Je vais lire deux passages. Alors, nous retournons dans le livre de l'Exode. J'en ai déjà parlé la dernière fois que j'étais devant vous. Et nous sommes encore dans cette lecture, chapitre 20, les versets 1 à 21. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons. » Mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Et dans la continuité, je lirai aussi le verset 23 du chapitre suivant, chapitre 21, qui est un passage que nous connaissons par cœur, que tout le monde connaît d'ailleurs, chrétien ou pas chrétien, quasiment. Donc le verset 23. Mais s'il s'ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion, œil pour œil. Et je lirai dans la première lettre de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a expié nos péchés et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et l'on en voit la réalisation en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère ou sa sœur est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère ou sa sœur demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Ancien commandement et en même temps nouveau commandement. Comme je suis né dans un milieu chrétien, je connaissais les 10 commandements. On les avait même appris par cœur au catéchisme, depuis tout petit. Mais connaître n'est pas forcément les vivre et les mettre en pratique. Nous sommes donc encore dans ce périple du peuple de Dieu dont nous parle le livre de l'Exode, à un moment essentiel. Dieu, l'éternel Dieu, c'est bien lui, a fait sortir son peuple d'Égypte, l'a délivré de l'esclavage. Et pour rappel, dans ce peuple, il n'y avait pas que des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aussi tous ceux qui sont partis avec eux à ce moment-là. Dieu les a fait passer par la mer des roseaux et les a conduits par Moïse jusqu'au Sinaï. Là, Dieu veut se révéler davantage à son peuple et surtout conclure une alliance avec lui. Le mot « testament » que nous utilisons pour parler de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, traduction en français via le latin, en réalité traduit le terme « alliance ». Pour nous, le mot « testament » est utilisé quand il y a un décès, alors que le mot « alliance » parle de la vie, de la relation avec quelqu'un. Quand deux personnes décident d'unir leur vie pour un projet commun, il ne nous viendrait pas à l'esprit de parler de testament, à moins qu'on soit un peu cynique. Mais nous parlons d'alliance dont ces personnes portent le signe à leurs doigts. Alliance que j'ai oublié de remettre ce matin d'ailleurs. Bon. Le bijou témoin de leur union pour un projet de vie s'appelle alliance. De même, je préfère que nous utilisions le mot d'alliance qui est la démarche initiée par Dieu lui-même vis-à-vis des humains. Dieu conclut des alliances avec Adam et Ève, par exemple, avec Noé et beaucoup d'autres. Dieu conclut une alliance avec Abraham et tous ses descendants. Et là, dans ce texte du livre de l'Exode, Dieu conclut une alliance avec tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont maintenant appelés son peuple, le peuple d'Israël. Et pour matérialiser cette alliance, les personnes ne vont pas porter un bijou spécifique. Mais Dieu lui-même va établir une charte de l'alliance entre lui et son peuple. Charte qui est écrite par Dieu lui-même et dont les 10 commandements en sont le cœur. Ce qui est intéressant, c'est que cette charte de l'alliance entre l'Éternel Dieu et son peuple, son nouveau peuple, est écrite de la même manière, sur le même modèle du moins, que les traités d'alliance de cette époque très reculée, que par exemple étaient établis entre un roi et son vassal, ou un peuple vassal, dans la forme. Chacun des acteurs de cette charte, recevait un exemplaire de cette charte. Là, on nous parle plus loin que cette charte était écrite sur deux tables de la loi, donc en deux exemplaires. Pas qu'on voit souvent l'image un peu ancienne avec les 10 commandements écrits sur deux tables. Non, c'est bien les 10 commandements et toute la charte d'ailleurs sur chacune des tables et chacun de ces exemplaires était normalement donné à chacune des parties comme preuve de cette alliance. Mais la particularité entre Dieu et son peuple, c'est que les deux exemplaires étaient déposés dans l'endroit le plus sacré du lieu de culte. Lieu de culte qui était d'abord une tente pendant ce voyage dans les déserts, puis dans le temple. Et ce lieu le plus sacré où était entreposé ce double exemplaire de cette charte de l'Alliance, ben c'était le coffre de l'Alliance, tout simplement. Qui en était la preuve pour toutes les générations de cette alliance entre Dieu et son peuple. Comme deux témoins de cette charte, deux exemplaires d'un même contrat. Dans son contenu, Dieu se présente. Alors, il se présente sans équivoque. Hein. On a déjà, il commence par dire « Je suis ». Et nous savons que déjà « Je suis », ça fait référence à Dieu. Mais non seulement « Je suis », mais « Je suis l'Éternel », donc son nom propre, Dieu. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur qui est l'auteur de cette charte. Ensuite, il nous est rappelé ce qu'il a fait pour le bénéficiaire de la charte d'alliance. Bénéficiaire, donc le peuple de Dieu. Il est écrit, c'est celui qui a fait sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte. Et le contenu de cette charte est résumé dans ces 10 commandements et toutes ces déclinaisons, puisque on peut en lire des règles et des règlements qui régissaient la vie. Très proche donc de leur époque, mais aussi très différente, sur 2 points essentiels. D'abord, ce qui concerne la relation à Dieu. C'est une formulation unique, évidemment. Et quand on compare les anciens textes, on se rend compte aussi que même les règlements, les 10 commandements en eux-mêmes, tout ce qui devait régir les relations entre les humains, était plus avantageux que ce qui se pratiquait à l'époque. Néanmoins, c'était de leur temps. Et à la fin de cette charte, de toute charte, il y avait ce qu'on appelait les bénédictions et les malédictions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les conséquences en cas de respect de cette charte ou de non-respect de cette charte ? Et là, j'ai lu le fameux verset que tout le monde connaît, sans savoir peut-être que voilà, qui se trouve là, qui était le principe aussi de cette charte, c'est, oui, quand on commettait quelque chose, un tort à une autre personne, ben, il fallait réparer. Mais œil pour œil, dent pour dent, c'était le principe. La nouvelle alliance, malheureusement, nous comprenons très vite à travers les récits bibliques que les humains, voire l'ensemble du peuple de Dieu, ne respectaient pas cette alliance, ou très peu. De toute façon, même si les sanctions pour non-respect étaient dures, dans certaines situations jusqu'à la peine de mort, elles n'empêchaient pas que les commandements de Dieu étaient contournés, détournés ou carrément enfreints. Souvent même, c'était ceux, rares, qui voulaient rester fidèles à Dieu, même s'ils n'étaient pas parfaits, qui étaient persécutés. L'état de l'humanité était tel que Dieu ne pouvait pas se montrer. Il restait caché dans une nuée et manifestait sa présence de différentes manières. À Moïse, dans un feu qui ne consumait pas le buisson. Au Sinaï, par des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre, et cette fameuse nuée qui cachait la face de Dieu à tout être humain. Dieu a donc décidé d'envoyer son Fils, c'est-à-dire lui-même, pour apporter la solution. Christ a pris sur lui la malédiction, il a pris sur lui les punitions pour non-respect de la charte d'alliance, de la loi, de cette charte qui a été donnée au Sinaï. Christ est mort sur la croix pour payer à notre place notre non-respect de l'alliance avec l'Éternel Dieu. Ça, nous le connaissons. Évidemment. Jésus-Christ a donc inauguré une nouvelle alliance à travers laquelle nous sommes libérés du péché et de sa condamnation. Cette nouvelle alliance, nous la rappelons à chaque fois que nous prenons ensemble la Sainte Cène, le pain et la coupe. Mais Jésus est allé plus loin encore. Il a introduit un changement profond dans les 10 commandements. Jésus les a résumés en 2 pour tous les autres. C'est-à-dire pour toutes les règles de la vie qui en découlent. Il les a résumées dans l'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain, comme pour soi-même. Et c'est important. La nouvelle alliance est donc régie par l'amour en 3 dimensions. Aimer l'Éternel Dieu, le Créateur, le Libérateur, c'est aimer soi-même, et ça ne va pas forcément de soi. Et aimer son prochain, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de nous. Et le nouveau principe qui permet de vivre cet amour en 3 dimensions, c'est le pardon. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. C'est le pardon. Le pardon, comme a dit Jésus, sans limite, sans exclusion. Tous les écrits de la Nouvelle Alliance, des Évangiles aux Épîtres et jusqu'à l'Apocalypse, nous montrent le chemin pour vivre concrètement cette Nouvelle Alliance. Alors évidemment, on ne va pas lire toute la Bible ce matin, mais peut-être justement nous rappeler ces fondamentaux. Aimer quelqu'un à qui on n'a rien à pardonner, c'est relativement facile. Mais la nouvelle alliance nous invite à aimer celui ou celle qui ne nous aime pas, forcément, et à pardonner sans limite. Sans limite. Autant dire que je ne peux pas y arriver tout seul. C'est uniquement à travers Christ qui vit en moi, en chacun d'entre nous, en tous ceux qui se confient en lui, que je peux y arriver. Mais il y a néanmoins besoin de ma volonté, de mon vouloir. Le texte 1 Jean nous le rappelle. Il est facile de dire « j'aime », mais seuls les actes concrets en sont la preuve. Et c'est vrai que nous n'aurions sans doute pas fait mieux que le peuple d'Israël. Si Dieu nous avait convoqués, et nous avait dit, je veux te regarder face à face, mais pour survivre à ma présence, il faut être sans péché, c'est-à-dire respecter scrupuleusement, parfaitement la charte. Je crois que je serais parti. Qui pourrait subsister devant Dieu ? D'ailleurs, on a toujours plein d'imagination et même les chrétiens, malheureusement, en ont des fois pour contourner même cette nouvelle alliance. Parce qu'il nous semble des fois qu'il y a des chemins plus faciles. Alors, il y a toujours eu ceux et celles qui ont préféré se retirer, se mettre à l'écart du monde, ne pas se laisser salir par le monde extérieur. On parle dans l'histoire de l'Église de ces ermites qui allaient vivre tout seuls, leur relation à Dieu, mais est-ce ça la volonté de Dieu ? Il y a des groupes, des fois, qui s'isolent dans ce sens-là. Mais sans aller dans ces extrêmes, sommes-nous assez ouverts pour accueillir? Sommes-nous prêts à nous laisser déranger? Et je vais juste prendre un exemple. Quand une église, par exemple, met sur son fronton les 10 commandements, est-ce que c'est une invitation à venir ou une invitation à rester dehors? Personnellement, je préférerais qu'on mette « Venez, entrez, vous tous, qui n'arrivez pas à aimer, qui n'arrivez pas à vous aimer. Et Dieu vous donnera du repos. Dieu vous pardonnera. » Qu'est-ce que nous mettons en avant? Il y a aussi cette deuxième tentation qui traverse la chrétienté depuis toujours, d'imposer cette nouvelle alliance. C'est d'ailleurs encore très à la mode aujourd'hui, hein, c'est une tentation récurrente. Ne serions-nous pas mieux si les commandements de Dieu étaient imposés à tous? Franchement. La peine de mort rétablie. Et ceux qui ne croient pas comme nous, on les élimine, on les expulse. Je suis un peu extrême ce matin, mais des fois, ça peut peut-être nous faire réfléchir un petit peu. Dieu lui-même nous rappelle que le royaume de Dieu ne va pas être mis en place par les hommes, fussent-ils les meilleurs chrétiens. C'est Dieu lui-même, au jour qu'il aura décidé, qui le fera. Il n'y a aujourd'hui que les prémices du royaume de Dieu. Et la différence avec cette ancienne alliance qui s'imposait finalement au peuple, qui était là dans une démarche pédagogique, la nouvelle alliance ne s'impose pas. On ne peut pas imposer la nouvelle alliance. C'est une offre. Dieu ne s'impose pas. Il est vrai que ce monde souffre de ce que beaucoup ont délaissé ou ne connaissent pas, le Dieu de la nouvelle alliance en Christ. Le monde souffre aussi des limitations de notre humanité. Je dirais que les 10 commandements sont toujours d'actualité, mais revisités, relus sur la base de l'amour et du pardon. Même nous, avec tous ceux et celles qui croient en Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes simplement en chemin avec Christ dans cette nouvelle alliance. Et je voudrais citer que cet exemple de Jésus par rapport au sabbat, par exemple, le jour de repos, qui pourtant était un élément important de ces 10 commandements, mais que les croyants, au fil des siècles, avaient encore compliqué, en avaient un peu perdu le sens. Et Jésus pose la question, est-ce qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat, puisqu'on ne pouvait plus rien faire ce jour-là? Et pour le prouver, ben, Jésus guérit, c'est les malades, le jour du sabbat, alors que ça lui était interdit par la loi, entre guillemets. Oui, il n'y a pas d'interdiction, pas de limite à faire le bien, à semer l'amour autour de nous, à pratiquer le pardon. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que si Dieu nous gâte tant qu'Église, ou les Églises en général, il y a quand même vraiment quelque chose qui fait la différence. C'est est-ce que nous vivons vraiment l'amour de Dieu entre nous, autour de nous? Et on sait bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que, oui, celui ou celle est complètement insupportable, m'est insupportable. Comment est-ce que je peux l'aimer, lui pardonner? Des fois, il faut du temps, des fois, il faut de l'aide. Mais c'est la base de notre vie. Quand nous serons face à face avec Dieu, on ne pourra pas lui dire, je suis venu régulièrement prêcher le dimanche matin. Non, ce ne sera pas la question. La question, c'est est-ce que nous aurons pratiqué, vécu la nouvelle alliance? Invitons, à travers l'amour que nous leur portons, nos concitoyens à entrer dans cette nouvelle alliance. Invitons. Amen.